parole du jour avec le père Daniel Rambure.
Bonjour à tous. Vous savez que depuis vendredi dernier, l'Église universelle, l'Église catholique, les Églises protestantes, les Églises orthodoxes nous invitent à prier pour l'unité pendant une semaine, jusqu'au 25 janvier, la fête de la conversion de saint Paul. Alors, je voudrais vous lire l'Évangile, un Évangile qui nous est proposé pendant cette semaine. Vous connaissez bien cet Évangile. C'est l'Évangile de Jésus qui est aux noces de Cana. On trouve ça dans le chapitre 2 de saint Jean. Alors je vous lis ce chapitre. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez-les d'eau. » Et ils firent ce que Jésus leur demanda. Et puis Jésus leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens sont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des premiers des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères, ses disciples et ils y restèrent quelques jours. Voilà ce texte de l'Évangile que nous avons entendu d'ailleurs dimanche dernier. Avez-vous remarqué que saint Jean nous dit que c'est une manifestation de la gloire de Jésus ? Voilà. À travers l'homme Jésus, se révèle sa divinité. Je voudrais vous faire remarquer la confiance de Marie. Oh, vous savez, c'est quelque chose quand même. Marie n'a rien demandé pour elle ni pour Jésus. Elle a demandé qu'une fois une chose, c'était pour les autres. Ils n'ont plus de vin. Et même si elle se fait un petit peu rabrouer par Jésus, elle a une telle confiance qu'elle donne confiance à ses disciples qui vont aller remplir d'eau des jarres alors qu'on manque de vin. Il faut quand même le faire. Ô Marie, apprends-nous la confiance. Et puis, je voudrais vous faire remarquer aussi qu'à partir du peu que l'on a, c'était comme les 5 pains et les 2 poissons, vous savez, un jeune garçon qui avait ça, c'était pas grand-chose pour une foule de milliers de personnes, mais Jésus prend le peu que l'on a et il transforme. Eh bien, il nous transforme, nous, personnellement, nous, nos personnes, pour entrer dans la famille divine. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu seras la joie de ton Dieu. C'est dans le livre d'Ésaïe que l'on trouve ça. Et ça se fera, chers amis. Il faut le croire. Il faut croire à cet amour inouï de Dieu pour chacun d'entre nous. Quand le prophète parle, les exilés sont rentrés de Babylone, mais les arrivants ne s'entendent pas avec ceux qui étaient restés. Et donc, ils ont l'impression d'être délaissés. « Mais non, dit le prophète, Jérusalem, de Jérusalem, Dieu deviendra malgré tout un phare pour toutes les nations. On ne dira plus de toi la délaissée, mais la préférée. Allez dire au monde entier, chantez, jouez. » C'est en termes amoureux que Dieu parle à son peuple. Tu seras belle comme une couronne resplendissante, comme un diadème d'or entre mes mains. Bon, je trouve que c'est beau de se rappeler ces choses-là comme ça. Vous savez, saint Jean reprendra cette image dans son livre qu'il a écrit pendant qu'il était en exil à l'île de Patmos. Ça s'appelle l'Apocalypse. Bon. Et à la fin de ce livre, au chapitre 21, il écrit « Il voit l'Église comme la Jérusalem nouvelle, la cité sainte prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. » Et plus loin, « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » L'agneau, c'est le Christ. On peut dire que chaque matin, Jésus réépouse son Église. Son Église volage, son Église pécheresse, car lui seul a le pouvoir de purifier et de la régénérer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette semaine de l'unité qui a commencé donc vendredi dernier et qui va jusqu'à la conversion de Paul le 25 janvier prochain, c'est une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chers amis, la robe de l'Église est déchirée. Comment travailler à l'unité du genre humain en étant nous-mêmes divisés? Je vous fais un petit peu d'histoire. Oh, il y a toujours eu, vous savez, des difficultés d'unité. Il y avait des hérésies, on se bagarrait, etc. Mais enfin, la grande division a commencé en 1054. C'est pas une question théologique qui a fait la séparation. C'est les Orientaux qui ne supportaient pas d'être commandés par les Occidentaux. Et le point culminant, enfin la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le pape qui a voulu imposer à tout le monde la date de Pâques, la même date de Pâques. Et puis alors après, dans l'histoire, eh bien on s'est mis à faire des discussions sur le plan théologique. Alors vous savez, il y a eu la Grande Guerre qui termine aujourd'hui, le filioque. N'est-ce pas? Dans notre credo, nous disons que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Non, 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 disent les Orientaux. Il faut dire que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils. Bon, voilà. C'était pas si important que ça, mais ça a fait des grandes guerres. Et puis, 500 ans après, alors, il y a eu le protestantisme avec Luther, Calvin. Et dans la foulée, l'anglicanisme avec le roi Henri VIII, qui voulait se séparer de sa femme, Anne d'Aragon, pour en épouser une autre. Et l'Église refusait de reconnaître ce nouveau mariage. Alors, il faut dire que ça a donné un petit peu du punch. Les rois, les autorités civiles ont toujours eu du mal à ce que l'Église ait aussi un certain pouvoir. Et puis, depuis, il y a eu beaucoup de divisions dans le protestantisme. En spécialement, alors, il y a les luthériens, il y a les calvinistes, etc. Et puis aussi maintenant les évangélistes. Bon, il y a eu plusieurs essais de rapprochement, en particulier depuis Léon XIII. Mais c'était dans un esprit de réintégrer l'Église catholique, donc l'uniformité. Il a fallu attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que la manière de voir commence à changer. Et en particulier avec le moine trappiste, le père Couturier. Alors le père Couturier qui a initié cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'était en 1937, avec le groupe des Dombes, si certains connaissent. Que Dieu nous aide à trouver le chemin. Depuis, il y a eu des grands théologiens, comme le père Congar, dominicain, ou le jésuite, le père de Lubac, qui ont créé des lieux de dialogue théologique. Et il faut bien le dire, la Seconde Guerre mondiale a obligé, sur le front, dans les camps de concentration, à se réunir et à se soutenir, que l'on soit protestant ou catholique. Et puis il y a aussi la communauté de Thésée, que je cite en passant, qui a été créée en 1940. Et enfin, le Concile Vatican II. Alors le Concile Vatican II va changer vraiment la disposition de voir. Le Concile nous invite à la communion dans la vérité. Une communion qui fait la richesse de l'Église, à condition de la vivre dans la charité, dans l'amour. Un peu, vous savez, comme un orchestre qui joue une symphonie. Je voudrais vous signaler également qu'en ce moment, le pape est à Panama pour la journée mondiale de la jeunesse. Cette jeunesse qui aime spontanément la rencontre avec ceux qui sont différents. Eh bien, attendons activement l'heure où tout sera réuni sous un seul chef, le Christ. Et l'Église, son épouse, fera la joie de son Seigneur. À demain.